Bienvenue dans la série Brin de conscience.
Bizarre.
Une plongée dans le creuset alchimique de nos corps, comportements et relations.
Mais pourquoi est-il aussi méchant ?
À la rencontre des ingrédients qui nous animent dans le concret de nos vies, sous un angle biologique, curieux et inspirant.
C'est la question qui nous anime tous.
Brin de conscience est la chronique au service du vivant. C'est parti pour 6 minutes de brin de conscience. Imaginons encore une fois qu'un stress survient dans notre vie. Et rappelons-nous ce que nous avions dit dans le précédent épisode. À ce moment-là, nous avons un choix à faire. Pris dans les émotions que la situation déclenche, nous pouvons soit monter vers la tête, prendre le chemin de la narration, au risque de perdre le contact avec la réalité factuelle, de surenchérir de biais cognitif en biais cognitif et d'alimenter une boucle pernicieuse. Un stress, une histoire. Plus de stress, ok, alors plus d'histoire. Soit rester focalisé sur les sensations que déclenchent dans notre corps le stress et les émotions qui lui sont associées. Et de là, mener une petite enquête. C'est ce deuxième chemin que nous voyons aujourd'hui. Le stress communique avec nous à travers des sensations. Une gorge serrée, un poids dans la poitrine, le souffle court, une accélération cardiaque, un nœud dans le ventre. Ces signaux corporels sont en réalité de précieux indicateurs nous indiquant qu'un besoin non satisfait réclame notre attention. Une approche à l'écoute du corps, centrée sur l'identification de ces besoins, comme dans la communication non violente, nous offre alors un cadre précieux et aidant pour gérer un stress. Marshall Rosenberg, fondateur de la communication non violente, nous rappelle que derrière chaque émotion qui génère des sensations désagréables dans le corps, se cache un besoin non satisfait. Et que tant que ce besoin n'est pas clairement identifié et pris en compte, stress et émotions persistent et tentent d'attirer notre attention par les sensations corporelles insistantes. Du coup, on a juste besoin d'écouter ces signaux du corps, décrypter les besoins et trouver un ou des moyens de les satisfaire sans se mettre la rate au courbouillon. Pour cela, suivons une démarche simple en 4 étapes. Premièrement, essayez d'observer la situation avec le plus de neutralité possible. Faire un pas de recul, ou de côté comme on dit, pour revenir aux faits. Car souvent, nous avons tendance à les mélanger avec nos interprétations, ce qui crée immédiatement une charge émotionnelle bien plus intense. Cet exercice, en apparence simple, est un outil très puissant pour éviter de réagir sur la base de suppositions, de biais cognitifs, et sert à calmer l'emballement mental. Par exemple, imaginons que vous avez envoyé un message important et que vous n'avez pas encore reçu de réponse. Une réaction immédiate pourrait être « cette personne m'ignore, ne me respecte pas, etc. » Mais si l'on revient aux faits bruts, sans y ajouter aucune interprétation dramatique, la situation devient « j'ai envoyé un message à telle heure et je n'ai pas de réponse. » Rien de plus. Deuxième étape, revenir au corps et écouter les sensations corporelles. Qu'est-ce que cette situation génère en moi ? Est-ce que quelque chose se manifeste au niveau de mon ventre, de ma gorge, de mes mains, de ma poitrine, ma nuque? Est-ce que je ressens une chaleur, une crispation, une agitation? Il s'agit là simplement de les observer sans vouloir les modifier. Cette présence au corps permet à nouveau de désamorcer le potentiel d'emballement du mental et donc d'amener plus de calme et de clarté pour la suite. Troisième étape, identifier le besoin du corps qui, à ce moment-là, n'est pas encore satisfait, car c'est ce manque qui déclenche en nous une réaction émotionnelle forte. Si nous reprenons l'exemple du message sans réponse, que pourrait être ce besoin ? Un besoin de reconnaissance, de clarté, de lien, de sécurité, de respect, ou tout simplement d'information ? Cette étape d'identification du besoin est essentielle, car souvent, nous nous focalisons sur le comportement de l'autre. Ici, par exemple, il ou elle ne répond pas, il ou elle m'ignore, alors que le véritable enjeu est interne, parce que j'ai besoin de me sentir considérée. J'ai besoin d'informations. J'ai besoin de savoir où j'en suis dans cette situation. Distinguer l'événement extérieur du besoin intérieur permet de prendre pleinement la responsabilité de notre état émotionnel et de poser l'action juste. Enfin, donc, quatrième étape. Une fois le besoin identifié, il est temps de chercher comment y répondre concrètement. Cela passe par poser une action qui peut être une demande. Si mon besoin est de me sentir en lien, puis-je prendre l'initiative d'appeler la personne dont j'attends la réponse plutôt que d'attendre passivement? J'ai besoin de clarté? Puis-je exprimer directement mon inconfort et demander une précision? Et si j'ai besoin de sécurité, puis-je trouver une autre source de stabilité en moi-même ou dans mon environnement? La clé ici est d'éviter les attentes floues, les exigences implicites et de mettre un mouvement. Une demande claire et formulée avec bienveillance a bien plus de chances d'aboutir qu'une frustration ruminée dans le silence et l'inaction. En intégrant ces quatre étapes, 1. Observer les faits, 2. Ressentir les sensations dans le corps, 3. Identifier finement le besoin sous-jacent, 4. Passer à l'action en formulant peut-être une demande juste et judicieuse. Nous passons alors d'un stress subi à un stress transformé en un indicateur précieux de nos besoins parfois insondables. Pas mal, non? À bientôt.
Comment on mange un éléphant?
Qui mange des éléphants?
On le mange petit à petit.